Chers frères et sœurs, avez-vous regardé la retransmission télévisée des cérémonies marquant la réouverture de Notre-Dame de Paris ? Comme nombre de Français, vous avez sans doute été éblouis par la splendeur de la cathédrale rénovée et marqués par l'intensité spirituelle de l'événement. Pour ma part, j'ai été sensible au fait que la beauté de nos églises peut dire quelque chose de la beauté de la foi chrétienne. Notamment, j'ai été touché par les plans qu'a fait le réalisateur sur deux œuvres d'art, la fameuse Vierge du Pilier et la clé de voûte du transept. Ces deux représentations de la Vierge Marie, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, comme ici, nous disent la même chose étonnante que la page d'évangile que nous venons d'entendre. Marie a offert son corps pour y porter le Verbe fait chair, pour donner un corps à Dieu. Et Marie a été la servante du Seigneur au plus haut point en devenant la mère de Dieu. Grâce à Marie, Dieu a pris corps pour nous sauver. À ceux qui contestaient cette réalité dès les premiers temps de l'Église, on opposait l'adage « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Je répète, « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Allez, petit décryptage. Pour que l'humanité, notre humanité, soit sauvée, le Christ Jésus devait assumer toutes les dimensions de la nature humaine, y compris la souffrance, la mort et les faiblesses humaines, hormis le péché. En ce premier jour de l'année, bénissons Dieu de nous avoir sauvés et pour ce faire, d'avoir préparé en Marie une mère digne de son Fils. Et je vous propose que nous tirions ensemble trois conséquences du mystère de l'incarnation. Alors vous allez me dire, c'est un peu ardu pour un premier de l'an, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Tout d'abord, Jésus, l'enfant de Marie, est pour nous visage du Père. Nous avons entendu tout à l'heure la magnifique prière tirée du livre des Nombres. Nous pourrons bien entendu la partager avec tous nos proches, qu'ils soient croyants ou non, tout simplement pour leur signifier que nous les aimons et que nous croyons en la bonté de Dieu pour eux. À l'époque de la marche vers la terre promise, cette foi en la bonté de Dieu s'exprime avec des mots qui humanisent le Seigneur. Qu'il fasse briller sur toi son visage. Qu'il tourne vers toi son visage. Or, les anciens avaient bien conscience que la transcendance de Dieu leur interdisait de le voir. Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie, dit Dieu à Moïse selon le livre de l'Exode. Et nous retrouvons cet interdit de la vision directe de Dieu dans le judaïsme d'aujourd'hui et dans l'islam. Mais ce qui était impossible aux yeux de nos aînés devient possible avec Jésus. Dieu a désormais un visage. Même si les évangiles ne décrivent pas Jésus physiquement et que nous n'avons pas de représentation picturale datant de son vivant, les représentations que nous avons sont souvent des images anciennes, certes, mais voilà, qui se fondent sur, par exemple, telle sphère, telle représentation, mais rien ne nous indique que ce soit véritablement là le visage de Jésus. Contentons-nous de savoir que sa famille, ses disciples, ses amis ont pu le regarder dans les yeux. Ils ont pu voir son sourire. Ils ont sans doute pu percevoir cette lumière bien particulière qui devait émaner de lui, ce qu'on appelle le charisme. Alors au final, peu importe que les traits de Jésus soient fixés ou non dans notre imagination, Il nous suffit de croire que la lumière éternelle brille en Jésus et que d'une certaine façon, elle brille aujourd'hui dans son corps qui est l'Église. Ainsi, chers frères et sœurs, ensemble, nous sommes, en tout cas nous essayons, d'être des reflets de cette lumière quand nous témoignons de la bonté de Dieu. Deuxième chose que nous pouvons tirer comme enseignement du mystère de l'incarnation pour nous, c'est que Jésus, l'enfant de Marie, est né d'une femme comme chacun de nous. Alors là, vous allez me dire, c'est vraiment le truisme des truismes. Ben oui, mais c'est quand même très important. C'est ce que nous rappelle saint Paul dans sa lettre aux Galates. Ainsi, Jésus a partagé notre expérience commune. Nous sommes tous redevables à notre mère d'avoir porté notre vie en elle. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre propre mère, mais je vous invite à lui faire signe aujourd'hui ou bien à prier pour elle, notamment voilà, si elle est décédée. Que le Seigneur la bénisse et la garde. Que le Seigneur bénisse et garde nos mères. Certes, la Vierge Marie est une mère unique, à l'image de son fils Jésus, tout à fait unique. Mais Marie a connu ce que connaissent toutes les mères. De cette similarité, saint Paul fait découler une vérité essentielle. Dans l'esprit, notre commune humanité fait de nous tous des frères de Jésus, donc des fils et filles adoptifs de Dieu et des enfants de Marie. Comme le dit autrement saint Paul, nous sommes tous héritiers de Dieu, à égalité, sans qu'aucun d'entre nous ne puisse se prévaloir de quoi que ce soit pour être préféré. Nous sommes tous les filles et les fils préférés de Dieu. Accordons seulement aux saints le privilège de pouvoir porter leurs prières devant la face du Seigneur en direct, et en particulier à la Vierge Marie, d'intercéder auprès de son Fils pour faire entendre nos intentions. Cette égalité fondamentale et fondatrice devrait avoir de belles et bonnes répercussions dans notre monde. Ne nous lassons pas d'entendre les mots du pape François à ce sujet. Je cite « C'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. » Oui, cette égalité fondamentale devant Dieu devrait fonder la paix sur notre planète. En cette 58e journée mondiale de la paix, n'oublions pas d'incarner concrètement les implications de la fraternité. Enfin, troisième conséquence que nous pouvons tirer aujourd'hui du mystère de l'incarnation, en tout cas que je vous invite à tirer avec moi aujourd'hui de ce mystère, Jésus, l'enfant de Marie, fait que nos corps sont bénis. Je m'explique. L'évangile de ce jour nous présente l'enfant Jésus couché dans la mangeoire. Et ils sont nombreux, les gens qui sont choqués par cette trivialité. On peut comprendre leur réaction. Dieu fait homme, emmailloté et déposé sur la paille, là où mangent habituellement des animaux. Dieu fait homme, le fils d'une petite jeune fille de Nazareth, ce petit bled de Galilée, peut-être pas plus grand que Roupérou le coquet. Dieu fait homme, confié à la garde d'un charpentier et livré à la vue de simples bergers, qui pourrait le croire ? Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, rappelle le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Et sa demeure n'est pas le palais d'un roi, ce n'est pas non plus la bibliothèque d'un savant, ni même le temple d'un prêtre. Sa demeure, c'est un corps semblable au nôtre. Il ne s'agit pas, chers frères et sœurs, de vouer un culte à nous-mêmes, puisque nous sommes un corps, mais simplement de nous rappeler la bénédiction sur nous, corps et âme, exprimée par Dieu quand il sollicite la liberté de Marie et se fait petit enfant. Oui, nos corps ont du prix aux yeux de Dieu, parce que lui-même a pris corps. Alors voyez, cela donne tout de suite un autre prix à nos yeux, à nos corps, quels qu'ils soient beaux ou laids selon les critères en vigueur, qu'ils soient en bonne santé ou souffrants. Oui, nos corps disent quelque chose aussi de la bonté de Dieu. Voilà ce que nous rappelons chaque fois que nous disons le « Je vous salue Marie ». Et le fruit de vos entrailles est béni. Tout fruit des entrailles d'une femme est béni. Nous sommes chacune et chacun bénis. Vos enfants, si vous en avez, sont bénis. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour la bonne nouvelle de l'incarnation qui nous fait davantage aimer notre condition humaine parce que nous la partageons avec Jésus, l'enfant de Marie. Et rendons grâce à Dieu pour la Vierge Marie. Grâce à elle, Dieu a pris corps pour nous sauver. Amen.